Donc nous, il faut savoir que la CASEL, c'est une association de bénévoles. Il n'y a personne qui travaille à la CASEL. Il n'y a pas de poste et de toute façon, ce n'est pas du tout l'objet, ce n'est pas du tout le but de l'association. Mais en fait, il faut savoir, on n'est pas les seuls dans le Tarn à faire ça. Il y a une autre association qui s'appelle l'Entre-deux, qui existe depuis plus longtemps que nous et qui, pareil, du coup, fait l'accompagnement des mineurs qui sont en recours, qui propose des hébergements solidaires. Du coup, les éducateurs du Daomi, quand les jeunes sont mis à la rue, ils leur donnent des numéros de téléphone. Et il leur donne les numéros de téléphone de nos associations, en fait, en disant clairement aux jeunes, appelez, ces associations sont là pour vous aider et sont là pour vous héberger. Encore aujourd'hui, qui donnent nos numéros personnels. Du coup, on avait des appels de jeunes qui sortaient, enfin qui étaient mis à la rue et qui en fait comptaient sur nous parce que c'était le discours du Daomi, de dire voilà que nous on était là pour ça. C'est assez catastrophique parce que du coup, ça donne des jeunes qui sortent avec un espoir que notre association est en capacité de les accompagner, alors que c'est pas le cas. Enfin voilà, dans la grande majorité des cas, on a les jeunes au téléphone et on est obligé de leur dire qu'on a aucune solution pour eux. Donc le Daomi se décharge complètement sur les bénévoles et en fait ça les arrange et en même temps c'est très difficile de mettre quelqu'un à la rue. Pour avoir moins de difficultés avec ça, ils se déchargent sur nos associations et la mise à la rue elle est plus ou moins violente. Alors des fois on les emmène à la gare, parfois de plus en plus, ce qui se passe sur Albi, c'est qu'on les emmène à l'accueil de jour du Colibri, qui du coup prend une part importante dans l'accompagnement des jeunes, qui les recueille. Mais ça arrive que les jeunes soient laissés à la gare le soir.
Ces jeunes qui sont en fait ni protégés ni expulsables, c'est la machine Daomi qui fabrique ce type de statut, parce que j'ai l'impression que la plupart du temps, l'histoire est déjà écrite en fait.
Alors c'est difficile d'avoir des chiffres déjà parce qu'ils ne sont pas communiqués. Donc ouais. Nous, ce qu'on sait, c'est ce qu'on nous raconte, c'est ce que les jeunes peuvent nous raconter de ce qu'ils voient. Toujours le même discours sur 20 personnes, t'en as une ou deux qui est prise en charge. Moi, j'ai vraiment l'envie de pouvoir discuter avec ces travailleurs parce que ce que je pense, c'est que les choses, elles pourront changer à partir du moment où on pourra avoir une organisation collective entre les travailleurs, les associations. Je pense que les travailleurs sociaux, ils ont une énorme part et qu'ils ont vraiment une force de frappe énorme pour pouvoir se mobiliser et faire bouger les choses. Donc vraiment, la volonté, c'est de pouvoir aller discuter. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est des contrats qui ne sont pas toujours faciles. Il faut savoir aussi que le centre d'évaluation, alors ça, pour moi, c'est assez dingue, mais prend des apprentis éduques. Donc il y a des éducateurs qui se forment au métier d'éducateur en passant par le Daomi, en réalisant des évaluations de mineurs isolés, en fait, en étant au cœur de la machine de tri. Enfin, c'est catastrophique. Mais souvent, en fait, les personnes partent parce que c'est trop difficile. Voilà, il y a beaucoup de turnover, ça bouge beaucoup.
C'est hyper déshumanisant. De toute façon, surtout si tu as choisi une profession que tu associes aux soins, c'est vrai qu'il y a des attaques claires politiques contre la pratique du soin en ce moment. L'hôpital, de l'AME, l'aide médicale d'État, qui est quand même sans cesse, enfin, une cible. C'est attaqué très très régulièrement, quoi. Alors que, bon, ça représente, j'ai lu, moins de 0,5% des dépenses de santé.
Oui, du coup, comme tu le disais assez bien, l'aide médicale d'État, elle est sans cesse remise sur le tapis, on la remet en question, on va de loi immigration en loi immigration, de toute façon, on l'a vu, hein, la loi Darmanin, les circulaires Retailleau, tout ça. À chaque fois, c'est l'occasion de remettre dans le débat toutes ces discussions. Pour moi, c'est pas quelque chose qui doit se réfléchir en matière de coûts. Alors oui, bien sûr, il y a les budgets et compagnie, mais en fait, il y a des vrais choix politiques qui sont faits, et quand bien même l'AME représenterait un coût conséquent, de toute façon, c'est une question de santé. À aucun moment il est possible de laisser des personnes qui arrivent sur le territoire sans couverture, sans prise en charge, sans soins. Alors là, dans le dernier budget, il y a 7 milliards d'euros qui ont été ajoutés pour la militarisation, pour l'armée. Nous, on pense que ces 7 milliards, il faudrait qu'ils soient plutôt mis dans le soin, dans les enfants et tout ça. L'aide sociale à l'enfance, c'est catastrophique à tous les niveaux. Ça répond à cette logique de course à la guerre, de militarisation, de l'impérialisme français.
Elles sont si braves, si courageuses, feu Michelin la main, tombée au champ d'honneur à Kidal, Dieu est pitié de son âme, feu Mama Kassori Bangura, la Raya Faye Martina, feu Mama Yawa Sanduno, décédée avec le tricolore en main, avec le rouge jaune vert en main. La Guinée,
yes, hommage à toutes les femmes qui charmantent nuit et jour, à Maryam Silla.
Madame Yula Planguine, Kumba Jeng, Madame Balde Vivo, Wiyaka Thomas, Fatima Tadjarae Vivo, Gadi Jabba, Lulo, Madame Naite Asimi Ubare, Nana La Guinée, Madame Oge Yoka, Moussa Yero Ramadieu, Aminata Pili Mini Jalo, Mariam Kourma Obagi, Madame Touré Mariam Unicef Domanina, Madame Traoré Issawan. À toutes ces femmes battantes de la gendarmerie, à toutes ces femmes battantes de la douane, à toutes ces femmes battantes de la police. Hadja Drame Fanta, honneur aux dames, Fondation FA.
De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec l'association La Caselle. Ali, tu peux peut-être nous présenter le morceau qu'on vient d'entendre.
Ce morceau a été dédié à les femmes guinéennes. Et ceux qui se battent pour avoir les meilleurs à venir dans les jours à venir, ce son a été dédié à ces femmes braves guinéennes. Et du coup, l'artiste à laquelle qui chante s'appelle Marcus, d'autres même l'appellent Congo Manila.
Avant de partir de Guinée-Conakry, comment t'imaginais la France et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu étonné, surprise, déçu
La manière donc que j'ai imaginé pour que je pouvais avoir la meilleure vie en France, ça n'a pas été le cas pour moi d'abord malheureusement. Et je ne suis pas du tout pris en charge après avoir passé 11 jours sur la Méditerranée pour traverser, d'être en Europe, parce que nous avons passé 11 jours sur la Méditerranée avant d'être en Espagne. Et du coup, on est rentré en Espagne, donc on était bien pris en charge par les Espagnols. Mais du coup, leur langue était très difficile pour moi parce que c'était ma première fois d'entendre la langue espagnole. Et du coup, je pensais que si je venais en France, j'allais avoir aussi la meilleure vie confortable. Et malheureusement, pour moi, ça n'a pas été aussi le cas que je pensais.
Nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis s'ils font des enfants, qu'ils viennent nourrir la longue cohorte de ceux qui ont eu comme moi des grands-parents émigrés, qui sont venus en France pour travailler courageusement, et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. On doit aider ceux qui travaillent. On doit aider ceux qui bossent et on doit être dur avec ceux qui commettent des actes de délinquance.
Donc du coup, la Caselle, ça a commencé en fin 2023. On s'est regroupé avec quelques personnes parce que c'était le moment où on parlait beaucoup de la loi Darmanin. Mmh. Et à ce moment-là, en fait, il y avait plusieurs collectifs qui se créaient en France contre la loi Darmanin. Donc il y avait Marseille versus Darmanin, Toulouse versus Darmanin.
Il y a eu des manifs.
Des assemblées générales, tout ça pour se mobiliser contre la loi Darmanin et plus globalement contre toutes les lois racistes. Donc nous, à Albi, petite ville, on s'est réunis à 3 ou 4, 5 et on a commencé à discuter de ça et on s'est dit bah voilà en fait comment on pourrait visibiliser ce qui est en train de se passer, les discussions qui ont lieu en ce moment là avec le projet de loi. Et en fait petit à petit on a créé Albi versus Darmanin qui a pas duré très longtemps. On fait la rencontre de l'entre-deux en fait qui est l'autre association dans le Tarn qui est basée à Gaillac. On a aussi rencontré des bénévoles de RESF, le réseau éducation sans frontières qui est sur Albi. Après discussion on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle urgence par rapport aux mineurs isolés en recours et que ces associations-là, elles arrivaient à bout de souffle et qu'il n'y avait plus de possibilités d'hébergement, d'accompagnement, qu'elles accompagnaient déjà beaucoup de jeunes, que des bénévoles, hein, évidemment, je le rappelle. Sur Albi, il n'y avait pas d'association qui s'occupait spécifiquement des mineurs isolés en recours. Et nous, on s'est dit que c'était important de pouvoir avoir un collectif sur Albi parce que le Daomi, il est à Albi. Et en fait, donc les jeunes, quand ils sont mis dehors, ils sont à Albi. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de se monter en collectif. Du coup.
Vous parlez de respect de la dignité. Concrètement, ça veut dire quoi dans la vie quotidienne, le respect de la dignité?
Alors ça, c'est une grande question. Ouais. En tout cas, nous, ce qui était important pour nous, c'est que les jeunes ils puissent avoir le même accès aux droits que n'importe qui pour pouvoir bénéficier, par exemple, de l'AME, pour pouvoir aller à l'école. Parce que je le rappelle, du coup, les jeunes, ils ont la possibilité d'aller à l'école. Ils ne sont pas considérés comme mineurs. Par contre, ils ont le droit de quand même s'inscrire à l'école. Et...
La France a ratifié il y a 30 ans la Convention internationale des droits de l'enfant. Chaque mineur, d'où qu'il vienne, a droit à un toit, à une protection, à l'accès à la santé et à la scolarité. Et c'est à l'État de maintenir cette protection quand les parents ne peuvent pas l'assurer. L'enjeu, faire face, protéger cette population vulnérable. La rue, l'isolement, le danger d'où qu'il vienne. Pour s'en sortir, un mot qui revient, l'éducation.
Je voulais continuer mes études comme tous les enfants du même âge que moi. Ma maman, elle était enseignante. Du coup, elle m'a appris vite à lire et écrire. Voyez-vous ? Donc je ne sais pas quoi faire si ce n'est pas les études.
Et puis en fait, surtout de ne pas les laisser à la rue. Enfin voilà, de toute façon, il y a quelque chose qu'on porte, là, toute l'association, c'est l'hébergement pour toutes et tous, inconditionnel, enfin voilà, sans condition. On ne réalise pas trop ce truc-là, mais passer une nuit à la rue, c'est déjà catastrophique pour ton futur, de comment tu vas te développer. C'est assez dangereux. Et puis on dit que, en fait, quand tu passes plusieurs nuits à la rue, tu prends des années dans les dents, quoi. Enfin, tu vieillis beaucoup plus vite. Enfin voilà, j'en profite pour rappeler ce chiffre qu'en moyenne, l'espérance de vie d'une personne qui est sans abri, c'est 45 ans. Les associations qui pallient au manquement de l'État, leur rôle, il est clairement politique. Dans nos objectifs, il y a quand même l'idée de pouvoir visibiliser la situation des mineurs isolés et puis les accompagner dans leur lutte pour leurs droits.
Ali, comment t'as découvert la CASEL? Ça s'est fait comment, la rencontre?
Et du coup, quand ils m'ont donné mon papier de recours, donc, ils ont dit qu'à partir de 15h, que je devrais quitter le lieu. Et du coup, je leur ai demandé, je vais aller où? Ils m'ont dit, ah, ils vont m'amener à Colibri. C'est un endroit là où si eux te laissent, c'est là-bas, eux t'amènent pour que eux puissent te prendre en charge. C'est pour te mentir, en fait. Parce que eux-mêmes, quand ils te prennent un véhicule pour t'amener là-bas, eux-mêmes, ils ne parlent pas parler avec eux. Ils restent en distance pour te montrer le chemin, que c'est l'endroit que tu vois, c'est écrit à la porte avec Colbri, que c'est là-bas que tu dois te rendre pour leur dire que tu as quitté Adaomi. J'ai dit, mais pourquoi vous-même, vous ne venez pas nous accompagner et parler avec eux? Ils ont dit, non, que ce n'est pas à leur droit de partir, parler avec eux, que c'est à nous maintenant de partir, d'expliquer la situation avec eux. Et du coup, quand tu pars aussi là-bas, tu peux rester de 7h, de 8h jusqu'à 18h. 18h, ils vont te faire sortir dehors pour te donner quelque chose là où tu vas passer la nuit dehors, parce qu'ils vont dire, et aussi, il n'y a pas de chambre pour toi, pour que tu puisses passer la nuit à Colibri là-bas. Le matin, quand ils ouvrent à 8h, tu peux aller te laver là-bas, manger aussi, jusqu'à 18h. 18h aussi, ils vont te faire sortir, c'est comme ça, et ça fonctionne. Donc, ils m'ont donné aussi le numéro de la gazelle. Ils m'ont donné 3 numéros différents. J'ai appelé toutes les 3 numéros. Il y en a qu'un seul numéro qui m'a répondu.
Après le premier parcours qui est le Daomi, si tu es rejeté, il y a un nouveau parcours qui est aussi violent, long et contraignant. C'est le recours de minorité.
Bonjour. Merci à tous d'être venus nous soutenir dans ce rassemblement. Nous voulons dire stop aux violences. Et stop au racisme. Nous sommes des enfants venant d'Afrique subsaharienne. Et dans les centres d'évaluation, dans notre minorité, nous avons vécu de la discrimination. Les éducateurs qui nous évaluent le font à partir de notre physique, de notre comportement, sans regarder nos papiers de naissance. Ceux d'entre nous qui n'ont pas été reconnus mineurs ont subi des intimidations pour ne pas faire des recours auprès du tribunal. Ils sont laissés dans la rue. Nous demandons au département de nous accompagner et de nous héberger pendant notre recours. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons qu'un jour, le racisme et la discrimination prendront fin en France. Je vous remercie.
Thank you.
concrètement, ça veut dire quoi pour un jeune être en recours de minorité ?
Juste, je voulais réagir par rapport à l'extrait qui vient d'être diffusé là. Cette prise de parole, moi je trouve qu'elle est particulièrement importante, en tout cas dans l'histoire de notre collectif, parce que c'était la première prise de parole publique d'un jeune. C'était le 22 mars, il me semble. Mais en tout cas, c'était la première fois que notre association se mobilisait. Il y avait tout un groupe de jeunes qui étaient là. C'est vraiment un des objectifs de l'association, de pouvoir permettre qu'il y ait des prises de parole publiques sur leur situation. Et pour revenir sur le recours de minorité, il faut aussi savoir que c'est un statut qui est un peu bancal, parce qu'en fait, on n'est ni mineur ni majeur, on est dans une espèce
de
flou, voilà, c'est ça. Quand on appelle le 115 pour avoir un hébergement, on leur dit qu'ils sont mineurs, donc ils ne peuvent pas bénéficier de l'hébergement inconditionnel, parce qu'ils sont mineurs et qu'ils sont tout seuls, mais par contre, le Daomi leur a dit qu'ils n'étaient pas mineurs. Donc c'est une situation qui crée une espèce de zone où ils n'ont pas accès aux droits. Soit dit en passant, de toute façon, le 115 ne fonctionne pas. Enfin, on considère, alors sur Albi, qu'il y a moins de 10% des personnes qui appellent le 115 qui ont une solution d'hébergement. Sur Toulouse, c'est à peu près les mêmes chiffres. Alors, c'est environ 5% des personnes qui appellent et qui ont quelqu'un au bout du fil vont avoir un hébergement. Et c'est moins de 10% des personnes qui appellent qui obtiennent réellement quelqu'un au téléphone, tellement il y a de l'attente. Une fois qu'ils ont fait l'évaluation, en fait, l'évaluation est transmise au procureur. Et c'est le procureur qui va dire, ce jeune n'est pas considéré comme mineur. Qui va signer le document avec l'ASE, évidemment. La personne, elle décide de saisir directement la juge des enfants pour dire, en fait, je suis mineur, le Daomi s'est trompé. Sauf qu'en fait, ils sont complètement seuls pour faire ces démarches. Heureusement qu'il y a les associations de bénévoles qui du coup les accompagnent dans ces démarches-là. Mais il faut du coup prendre un rendez-vous avec un avocat, une avocate qui va les accompagner sur ce recours.
Ce que je savais, je le disais. Ce que je savais pas, je disais, je savais pas.
Il était déjà dans une situation de grande, grande précarité. Il vivait à la rue, à Mauroy, à la suite du décès de son père, quand il était tout jeune. Et donc il n'a pas pu dater exactement parce que c'est un peu confus, il savait qu'il était petit, mais il ne peut pas dire si c'est à 2, 3, 4, 5, 6. Et donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu de manière précise aux questions, parce qu'il ne savait pas, mais ça ne veut pas dire qu'il cache une vérité.
Une étape décisive pour obtenir une ordonnance de placement. 70% des recours au tribunal aboutissent. Devant le juge, les jeunes fournissent cette fois-ci des papiers qui auront été entre-temps validés ou pas par la police aux frontières.
Et donc normalement, si on a ces documents, on accepte la prise en charge.
Quand les jeunes ils sont reconnus mineurs, en fait, les jeunes ils arrivent quand même parfois, enfin souvent, à récupérer des documents de naissance, enfin des actes d'état civil et tout ça. C'est ce qui leur est demandé d'ailleurs quand ils passent par le Daomi. Alors des fois ils présentent les documents, mais en fait le Daomi considère que c'est des faux. Enfin voilà, c'est assez arbitraire. Enfin voilà, il y a quand même des actes d'état civil avec une date de naissance et un âge. Et puis en fait les jeunes connaissent leur âge.
Ouais, oui, parce que quand même c'est un parcours migratoire difficile, violent. Les papiers. La plupart du temps ont pu être perdus, les papiers peuvent être confisqués aussi.
De toute façon, le Daomi n'est pas un espace de confiance, un endroit où on va se sentir bien, en sécurité.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie. Une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra, comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent. Une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir. De la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres.
Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit ramons tous à la même cadence. Dans le bar, y'a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, y'a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar, échange ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc.